des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison...
Le con-là, il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, donc.
Voilà.
Sur Radio Canu.
En effet.
102.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Tout à fait. De 21h à 22h, comme tous les lundis soirs. Donc ce soir, lundi 27 novembre 2017, une nouvelle revue de presse cannabique. Mais pas que. Alors avant de partir, avant de s'engager dans la revue de presse comme d'habitude, je vais vous annoncer quand même que ce vendredi, donc à la fin de la semaine, vendredi 1er décembre, de 21h jusqu'à... nous, on tiendra peut-être pas plus que 3h du matin, mais le cirque tiendra un stand à la salle des fêtes de Caluire pour une soirée Reggae Dub Sound System organisée par nos camarades de Bredar Sound System. Voilà, une soirée qui donc se déroulera de 21h à l'aube. Alors en hiver, l'aube, bah c'est tard, hein. Enfin c'est tard le matin, hein. C'est plutôt vers 7h30-8h, mais bon, nous on sera sans doute plus là à ce moment-là, mais en tout cas voilà, une bonne partie de la soirée, le cirque sera présent dans la salle des fêtes de Caluire, quelque part vers le bar, dans un endroit peut-être un tout petit peu plus tranquille et dégagé. Nous tiendrons donc un stand d'information, nous allons régulièrement à la salle des fêtes de Caluire, invités par nos camarades de Breda Sound. Et donc voilà, vendredi soir 1er décembre, nous ne dérogerons pas à la règle et nous serons donc présents et présentes à cette occasion. Voilà, donc si parmi vous des personnes qui souhaitent sortir pour aller guincher sur du dub, du reggae, et que ça vous intéresse de venir rencontrer le cirque, eh bien vous nous trouverez facilement. Voilà. Voilà, voilà.
Ça peut être l'occasion, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc on va partir dans cette revue de presse, en tout cas, sur des faits, sur ce qui se passe un petit peu vers Quimper, ou alors c'est là, une procureure, ou en tout cas que c'est la justice qui a les mineurs dans le viseur. En Italie aussi, on ira voir ce qui se passe du côté du cannabis thérapeutique, où la gratuité est presque partout, où ça avance, c'est assez intéressant. Aux USA, on parlera du combat du cannabis médical avec un enfant comme symbole. Voilà, bon, on verra un petit peu comment ça se passe là-haut, aux USA, là-dessus.
Enfin, dans certains États où c'est pas, où la loi n'a pas avancé, notamment.
Voilà, parce qu'elle a avancé dans un grand nombre. Voilà, on va dire plus
de la moitié, mais pas tous.
En tout cas, dans le médical, mais voilà, pas tous. Voilà, puis après, on viendra voir ce qui se passe en France. S'il se passe quelque chose. Vers quelle réforme?
Avec deux articles sur publicsénat.fr qui nous parlent de la contraventionnalisation. Un article très intéressant d'Elena Berkawi qui critique notamment le projet de verbalisation des usagers. Et puis un autre article un petit peu moins intéressant.
Qui se demande si c'est la contraventionnalisation n'est pas les premiers pas vers la légalisation.
Voilà.
Et peut-être un petit peu optimiste, mais bon.
Carrément, oui.
Voilà, après dans Soft Secret, un article d'Olivier qui dit qu'ils veulent légaliser pour de mauvaises raisons. Voilà, bon, on en discutera. Ouais, mais je pense en plus, comme c'est des sujets sur lesquels on va discuter, je pense qu'on n'arrivera pas aux deux derniers sujets, mais que je vais quand même vous énoncer. C'est-à-dire, c'est la cocaïne et la Suisse. Un petit peu ce qui se passe là-bas, c'est assez intéressant, mais bon, on verra quoi. L'héroïne qui stagne et qui bouge pas depuis qu'ils l'utilisent, mais par contre un regain de la cocaïne. Et ce qui m'a rendu juste une petite chose qui avait marqué sur la photo, c'était qu'ils ont remarqué qu'en Suisse la cocaïne était consommée par toute personne de toute classe sociale et de tous âges un peu. Mm-hmm. Voilà, donc
ça s'est démocratisé en Suisse.
Voilà,
aussi.
Malgré l'interdiction. Voilà, voilà, donc c'était un petit truc qui disait. Et enfin, un autre article très intéressant aussi sur l'histoire du cannabis médical. Voilà, qui résume très très bien tout ce qui s'est passé.
De manière très synthétique.
Voilà, une page et demie pour tout résumer en partant.
Il doit y en manquer, mais bon.
De les grandes lignes 2700 sont. 1700 avant Jésus-Christ. Et voilà, et après il y a toutes les grandes dates, un petit peu tout ce qu'on voit non, avec, voilà, avec l'empereur chinois, avec les maladies qu'on a trouvées, voilà, sur l'anatomie, la mélancolie, tout ça, quoi. Des trucs anciens, mais qui voilà, avec l'inné au passage jusqu'à arriver actuellement avec, avec les relancements, voilà, et en finissant avec l'interdiction en France en 1953. Et il a été sorti de la pharmacopée. Voilà, j'avais retenu que c'était dans les années 60, comme quoi. Des petites dates intéressantes à retenir. Voilà. Bon, on ne parlera sans doute pas de ça parce qu'on va être trop bavard et.
On va voir.
Mais ça nous occupera un jour, on en parlera.
Alors, juste avant d'écouter un peu de musique, comme nous le faisons tous les lundis, on va donc s'intéresser à ce premier article. Un article, voilà, c'est un peu les faits divers du cannabis, hein, dont on essaye de parler au moins d'un article toutes les semaines. Un ou deux articles, là c'est plutôt deux. Alors on va commencer par le plus court, hein, celui qui se passe à Cherbourg et qui nous est rapporté par la Normandie. Donc de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit, alors c'est quand même assez lamentable, hein, faut reconnaître. Il s'agit d'un jeune homme en fait qui s'est fait cambrioler qui s'est fait voler du cannabis chez lui en fait. Hein.
Ah non mais c'est même pas ça. C'est un guiguise qui allait voler du cannabis chez son ami.
Chez son pote, ouais,
mais son pote,
il est bien allé lui voler, quoi.
Il est passé par la fenêtre.
Ouais mais bon il l'a bien volé quoi.
Ouais non, ouais, voilà. Attends. Donc il passe par la fenêtre.
Non mais je sais de quoi ça parle.
Il est repéré par des flics. Les flics l'arrêtent. Ils expliquaient, voilà, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, je suis allé voler du cannabis, ah, c'est mon pote. Ça. Et le Gugus, donc, le pote en question, ils sont allés l'arrêter sur son boulot.
Oui, parce qu'il a dénoncé son pote.
Immédiatement.
Voilà.
Donc non seulement il le vole, mais en plus il le dénonce. Donc c'était difficile de dire que ça venait pas de là, vu que c'était chez son pote. Mais bon.
Bah oui, de toute façon, les policiers l'attendaient en sortant de chez lui.
Ouais.
Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, méfiez-vous de vos amis et de
c'est
vos connaissances,
con, hein.
Quoi. Parce que bon, visiblement, ils sont prêts. Il y en a certains qui sont prêts à venir vous voler votre cannabis chez vous et en plus à vous dénoncer ensuite. Alors bon, c'est sûr qu'après la police est venue interpeller, bon, comme tu disais, l'individu, le propriétaire sur son lieu de travail, mais ils l'ont emmené chez lui. Chez lui, ils ont trouvé 200 grammes d'herbe et une quinzaine de pieds en cours de, enfin qui poussaient en fait, qui étaient en train d'être cultivés. Alors ils ont été emmenés en garde à vue. Bon, ils ont été relâchés suite à la garde à vue, mais bon, on va leur proposer, on leur a proposé une composition pénale pour l'un et une convocation sur RPC, donc reconnaissance préalable de culpabilité pour l'autre. Et bien sûr, l'intégralité de la culture a été détruite. Voilà. Donc, oui, ça craint, quoi.
Voilà, donc faites attention à vos amis, faites attention à vos connaissances, ne montrez pas trop vos plans.
Voilà, fermez bien vos portes, vos fenêtres et compagnie. Quoi.
Voilà, la discrétion est de mise de nos temps. N'oubliez pas que c'est quand même un produit totalement illégal et donc qu'il n'y a pas de règles.
Voilà. Allez, musique, et on revient tout de suite après, cette fois, pour aller à Quimper. Où il se passe des choses pas rigolotes quand on est mineur.
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.
Fumer.
J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que le commerce fait recette.
Va te faire mettre.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et que j'en donne à des gens
qui allègrement amassent les bagues en diamant
sur le dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds.
Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds lourds. Pensez que peut-être tout c'est une malhonnête.
Servent à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la
fumette, c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon, tu peux aller en prison.
Que l'alcool tue à foison.
Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumez vous petit pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
On arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom.
C'est la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boom.
Et voilà.
Voilà.
Et donc c'était Trio, hein, la main verte.
Voilà. Toujours d'actualité ce petit titre. Voilà. Tout ce qui se dit dedans, c'est toujours d'actualité, c'est quand même fou. 19 ans ou 20 ans après que le morceau soit sorti, hein, parce que ça date de 97 ou 98.
Je dirais plus vieux. Hein.
Non. Toute fin des années 2000, des années 90. 98, je crois. Bref, alors maintenant on va s'intéresser à cet article du Telegram.fr qui est un modèle du genre, je trouve, où on a à peu près tout dedans, toutes les incohérences, toutes les contre-vérités, toutes les, et puis alors quelques vérités aussi, hein. Mais on a à peu près, voilà, c'est un modèle du genre sur à peu près comment il faut pas faire en France, même avec des ados, même avec des lycéens. Mais là, voilà, je crois que là, vraiment, l'article est vraiment bien.
La consommation de cannabis, en tout cas, inquiète Noël Colobert, et c'est la vice-procureure en charge des mineurs.
De Quimper. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça l'inquiète ? Parce que il y a une banalisation, selon elle, de la consommation. Je pense qu'on peut. Oui, il peut y avoir une banalisation. Hein.
Non, mais ce qu'elle veut faire, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle va multiplier les contrôles aux abords des établissements scolaires.
Voilà. Alors, en accord avec les chefs d'établissement, et l'éducation nationale d'ailleurs. Alors, elle dit quand même comme ça que on trouve de la consommation de cannabis dans des dossiers mettant en cause des mineurs de façon impressionnante. Je cite, hein, de manière impressionnante. Alors, elle vient de Cayenne en Guyane, cette dame. Alors je ne sais pas si elle a fait école là-bas en matière de répression de la consommation du cannabis.
Non, en Guyane, il n'y en a plus.
Après son passage, tu veux dire,
oui. Ou...
Bon, en tout cas, voilà, c'est de là qu'elle vient et c'est pas si vieux. Hein, elle a été nommée il y a 3 mois. Voilà, elle dit comme ça. En fonction des dossiers, si des noms sont récurrents, le nombre de contrôles sera augmenté aux abords des établissements scolaires. Et donc voilà, elle veut mettre en place un lien étroit avec l'éducation nationale et elle dit « Mon premier contact sera le référent justice de l'éducation nationale dans le département. » Et là, et donc voilà, c'est là que ça se corse au niveau de l'article, hein, puisque selon elle, une position pénale s'impose, bien entendu, par un impératif de santé publique, pourquoi pas, face à la banalisation qui conduit nombre de mineurs à estimer qu'ils ne sont pas dépendants du cannabis. Voilà. Et la multiplication des phénomènes de décompensation accompagnés de troubles schizophréniques sont là pour les contredire. Alors on est bien dans les idées
reçues. Quelle multiplication, depuis quand, laquelle, quel chiffre, quel nombre?
Voilà, parce que c'est quand même un discours qui revient, mais il n'y a pas d'augmentation exponentielle de schizophrénie, de décompensation multipliée par 10, 15 ou 100. Il n'y a pas de résultat comme ça dans les hôpitaux psychiatriques, hein, faut quand même le savoir. Et puis, en même temps, avoir des troubles de schizophréniques, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dépendant au cannabis, quoi. Encore une fois, la dépendance ne se matérialise pas que par une décompensation et une schizophrénie. Loin de là. On n'en est pas là, hein, pas du tout, quoi. Et donc, plus loin, on peut lire que, enfin, dans la phrase d'après, hein, que l'effet d'apaisement recherché par les consommateurs n'est pas toujours celui obtenu. Et là encore, on revient avec en fonction du taux de THC, on peut avoir des comportements, on peut avoir des consommateurs surexcités et des passages à l'acte. Et les audiences du tribunal pour enfants regorgent de faits de violence ou de dégradation commis dans un tel contexte. Alors là, là pour le coup, c'est vraiment nouveau. C'est aussi un truc que je n'avais jamais lu. C'est-à-dire que, enfin moi, ce que je comprends de ce qui est écrit là, c'est que donc des ados fument du cannabis, ils se font arrêter, ils se retrouvent au tribunal pour enfants et ils pètent les plombs dans le tribunal. Moi, je comprends ça dans, ce, dans cette phrase. Je sais pas, tu me suis là, non ?
Oui, à moitié, à moitié.
Donc là, ça, alors, ça, c'est vraiment flippant. Hein. Alors, c'est flippant parce que, alors, déjà, premièrement, on nous parle de décompensation schizophréniques et d'un jeune complètement, comment dire, hors d'eux-mêmes, en fait, qui pète un câble dans une enceinte de justice, dans un tribunal, parce qu'ils auraient fumé avant. Donc ça veut dire que les ados qui fument risquent de devenir fous, et que en plus, ils pètent un câble et ils deviennent violents au tribunal. Quoi. Alors, c'est vraiment c'est l'enfer. Quoi, hein.
Moi, j'avais pas compris que c'était au tribunal. Mais...
Bah, les audiences du tribunal pour enfants regorgent de faits de violence ou de dégradation commis dans un tel contexte.
Bah oui, c'est les affaires de violence, c'est pas...
D'accord.
Ils sont traités là-bas, c'est pas que ça s'est passé là-bas.
Ok, je te cache pas que c'était pas clair. Hein.
D'accord.
Enfin, tu le comprends comme ça, moi je te dis, sur le coup, j'ai pas du tout compris à ce niveau-là. Mais bon, voilà, ça change pas grand-chose, hormis le fait que c'est pas dans le tribunal, comme tu viens de le dire. Alors, je vais plutôt aller dans ton sens. Mais en tout cas, voilà, c'est ou la folie, ou la violence et l'explosion, quoi. Parce qu'on a fumé du cannabis, ce qui est quand même bizarre. Alors après tout ça, il y a aussi le basculement dans le trafic. Voilà. Et là, alors la porte ouverte aux dettes et aux règlements de compte, qui nous rappelle ensuite le risque pénal, 5 ans de prison pour un mineur, 10 ans pour un majeur et jusqu'à 20 ans de prison en cas de récidive de trafic de drogue. Mais les mineurs, eux, encourent jusqu'à 6 mois ou 1 an de prison. J'avoue qu'après, je ne comprends plus non plus là. Voilà. Ah non, c'est les consommateurs ouais, qui encourent quand tu as eu 6 mois ou 1 an, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs. Voilà. Alors là, quand même, on nous parle d'alternatives aux poursuites pour prononcer des décisions aux vertus pédagogiques pour les mineurs, mais aussi pour les parents. Et la magistrate leur rappelle volontiers qu'ils peuvent agir en faisant en sorte que leur enfant consulte un médecin si besoin. Voilà. Donc, c'est très très grave. Ces jeunes risquent de devenir fous s'ils fument du cannabis. Ils deviennent très violents. Donc, quand on lit ça, c'est super grave.
Mais ouais, c'est dangereux, c'est pour
c'est
ça que c'est
interdit. Super grave. Mais finalement, pour s'en sortir, il suffit d'aller consulter un médecin. Ça te paraît pas bizarre tout ça, toi ? Non. Bon, ok, c'est moi qui dois être.
Ça dépend. Oui, si.
Non mais tel
oui.
Que c'est écrit, enfin, je veux dire, tu vois bien.
Ben, c'est normal pour quelqu'un à qui on a inculqué que la drogue c'était mauvais. Donc au moins là, il s'y retrouve avec toutes ces infos de formation contradictoires. Les médecins, c'est des gens bien, ils soignent tout. Donc juste la prise de cannabis, ça peut être soigné pour un médecin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas si grave, quoi.
Ouais. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous présente ça, on nous présente quand même un tableau qui est flippant, qui est gravissime, et au final, on dit aux gens, ben consultez un médecin, quoi. Alors certes, mais consulter un médecin, ça veut pas dire que le médecin va vous soigner. Et puis c'est pas en allant voir un médecin que le médecin va vous guérir de votre schizophrénie. Enfin, surtout si c'est un médecin, c'est pas un psychiatre. Non, quoi,
elle fait du droit, elle est pas médecin, tu sais. Donc voilà.
C'est ouais, non mais c'est l'enchaînement des propositions dans l'article qui à mon avis, enfin qui sont particulièrement effrayantes et en même temps qui tombent à plat.
Bah ouais, c'est des antiques quoi.
Ouais ouais, non mais je veux dire, on a vraiment un modèle du genre là dans cet article.
Alors, je sais pas si c'est Jean Leborgne, le journaliste qui l'a écrit. Ou,
ah ben si, ouais, je pense. Ouais.
Ou Noël Colaubert, mais en tout cas, les deux sont bien.
Non non, mais Noël Colaubert, c'est la magistrate. C'est oui. Pas elle qui a écrit l'article dans le journal.
Non, mais ouais. Voilà, ses propos sont ramenés. Donc elle est quand même bien contre.
Oui oui, bien sûr.
Mais en plus, le journaliste va dans le même sens.
Bref, en tout cas, voilà, un article particulièrement effrayant, d'une part, et qui, à mon avis, je suis pas certain que ça ça rassure tout le monde et que ça provoque vraiment une prise de conscience chez les ados, quoi. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fini. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cet article.
Non, je pense pas que c'est de visiter un tribunal. Si, ça pourra peut-être c'est très intéressant.
De quoi, de visiter un tribunal?
Oui.
Oui, ça peut être intéressant, oui.
Selon les affaires qui sont traitées, c'est très intéressant.
Ouais. Bref, du coup, on va en Italie maintenant, avec des meilleures nouvelles. On va s'intéresser un peu maintenant au cannabis thérapeutique, et notamment à l'Italie. Alors, c'est un article du Quotidien du Médecin qui a été repris par Principe Actif. Alors pourquoi cet article nous intéresse? Ça nous intéresse parce que, en fait, l'Italie, enfin les politiques italiens ont voté très récemment, en fait, l'accès, enfin la gratuité du cannabis thérapeutique pour les malades qui sont souffrants en fait en Italie. Et il sera donc possible, suite à l'approbation de ce décret, d'obtenir pour les personnes qui souffrent et qui peuvent le justifier, ils pourront donc se procurer du cannabis médical qui sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale italienne. Alors là,
oui,
c'est quelque chose, ça. Hein,
voilà, donc il y a déjà 11 régions sur 20 ont déjà introduit cette gratuité des thérapies d'antidouleurs à base de cannabis. De cannabis. Et donc, rappelons-le quand même, là-bas en Suisse, c'est dans une... caserne.
En Italie.
Oui, en Italie.
Pas en Suisse.
Ah, pardon. Oui, donc en Italie, c'est dans une caserne vers Florence qui produisent leur cannabis. Hein. Leur objectif est de 350 kilos par an. Voilà, et ils ont peur d'en manquer si, justement, avec cette gratuité, il y a trop de demandes. Donc ils travaillent, ils vont sans doute y avoir d'autres lieux où il va y avoir de la culture, pour justement pouvoir répondre à la demande et surtout ne pas être obligé d'importer du cannabis thérapeutique. Que du cannabis pour des raisons thérapeutiques. Voilà, mais c'est bien, quoi, ça.
Non, mais c'est... Attends, c'est super bien. Alors, il va y avoir des élections au mois de mars en Italie. Alors, dans l'article, au début, on nous dit que ce décret, il a été voté rapidos, quoi, hein, pour que ça puisse vraiment entrer en vigueur et se mettre en application rapidement. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas tergiversé des mois, hein, pour voter le décret. Hein, et ils ont... Parce que des fois, il y a une loi qui est votée, mais le décret, il arrive pas, ou des années après, mais là... Là, c'est pas le cas. Alors, ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le décret, il prévoit aussi la mise en place d'une formation professionnelle sur les thérapies antidouleurs à base de cannabis pour le personnel médical et socio-sanitaire. Voilà, ça, j'ai trouvé très, très intéressant aussi. Voilà, on prévoit donc de former des professionnels qui seront en contact avec des malades et qui pourraient éventuellement être intéressés ou pour qui le cannabis thérapeutique peut s'avérer efficace. Voilà, donc quelque chose de très très positif, très positif. Et franchement, quand on lit ça, on se dit, mais on est vraiment... Encore une fois, en France, on est vraiment à la ramasse, quoi, parce que là, les militaires qui en cultivent, une loi qui est passée, un décret en plus qui prévoit la gratuité et une formation, enfin, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment intéressant.
C'est remboursé par la sécurité sociale, c'est tout.
Oui, ouais, non, mais t'as vu où on en est en France? On n'arrive même pas à avoir du Sativex, et en plus, s'il y en a, on sait que ça va être 250 ou... euros, 300 euros le flacon pour 10 pulvérisations sous la langue et encore. Voilà, on en est là, et le produit, on sait qu'il n'existe pas, il n'est pas disponible en pharmacie, et on sait qu'il ne sera pas gratuit si un jour il arrive, quoi. Mm-hmm. Voilà, donc là-bas, au moins, on n'a pas fait les choses à moitié, quoi. Donc voilà pour la bonne nouvelle européenne, en fait, pour
alors là, qui ont envie de partir en Italie, du coup, tiens.
Ben oui, il y a peut-être des malades français qui voudront aller voir en Italie ce qui se passe, mais Mais bon, après, on n'a peut-être pas forcément la peine d'aller si loin, parce que bon, avec la Suisse qui a mis sur le marché du cannabis à moins de 1% de THC avec beaucoup de CBD, voilà, c'est aussi du cannabis thérapeutique, quoi. Voilà, alors, voilà pour l'Italie. Maintenant, on va traverser, alors toujours sur le thème du cannabis thérapeutique, on va traverser l'océan et maintenant, on va aller alors au Texas, aux États-Unis. On va s'intéresser à cette jeune fille, parce que c'est une jeune fille hein, qui a 12 ans, qui s'appelle Alexis Bortel. Mais elle n'est pas toute seule, il y a également 5 co-plaignants avec elle.
Voilà, donc elle c'est la plus connue parce qu'elle est guérie de ses crises d'épilepsie grâce à des médicaments au cannabis. Donc elle incarne la lutte pour la légalisation au niveau fédéral.
Et elle a 12 ans.
Voilà, tout à fait. Voilà,
c'est le visage du cannabis thérapeutique aux États-Unis, c'est une enfant de 12 ans.
Voilà, très médiatisée, donc avec, comme tu disais, avec 5 autres enfants, co-plaignants.
Alors, ils ne sont pas des enfants, les autres.
Hein. Les autres, ce n'est pas des enfants,
non.
D'accord.
Non, parce qu'il y a un ancien militaire qui a fait la première guerre du Golfe, notamment. Il y a un autre enfant, effectivement, qui a 6 ans. Mais il y a aussi un ancien joueur de sport aux États-Unis, un ancien soldat. Voilà. Donc, alors, on va peut-être un peu s'attarder sur qui est cette Alexis Bortel et d'où elle vient. Alors, elle vient du Texas et elle souffre depuis sa naissance donc de crises d'épilepsie paralysante. Donc, je me rappelle plus du nom du. Je crois que c'est le syndrome mince de Dravet. Voilà, je crois que c'est ça le nom pour les. Le nom des crises d'épilepsie multiples et très aiguës où on peut en avoir plus d'une centaine par jour en fait. Donc elle souffre de ces crises d'épilepsie et sa famille a trouvé que ce qui pouvait la soulager c'est de l'huile à base de cannabis, sauf que cette famille Bortel, elle vivait jusqu'ici au Texas et qu'au Texas il n'y a pas eu de modification de la loi sur le cannabis ou même le cannabis thérapeutique, donc le cannabis est interdit. Qu'il soit récréatif ou thérapeutique, il n'est pas légal au Texas. Donc la famille a dû déménager il y a 3 ans et est allée s'installer au Colorado, où là-bas c'est légal, pour que leur fille puisse se soigner et avoir une vie à peu près normale. Voilà. Donc elle est accompagnée par un avocat, bien évidemment. Qui a donc les a aidés à attaquer en fait attaquer l'État, enfin attaquer le gouvernement fédéral en fait. Donc l'avocat il s'appelle Michael Hiller et donc il dirige une équipe d'avocats. Il est également membre de la New York Cannabis Bar Association et lui dit que c'est carrément une affaire de droit civique qui s'intéresse au droit de chacun à utiliser un traitement pour préserver sa santé. Et il dit comme ça, il ajoute, hein, il s'agit du droit de chacun à exercer sa liberté de parole sous le premier amendement et à voyager librement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors voilà, oui, cet avocat, donc Michael Hiller, il représente donc d'autres personnes, d'autres patients, d'autres malades. Et il les accompagne, il les suit parce qu'il considère que ces situations illustrent en fait les paradoxes au niveau des évolutions législatives aux États-Unis et notamment les incohérences qu'il y a entre la loi, les États, etc. quoi. Donc un des clients de cet avocat c'est Jagger Cote qui a 6 ans, qui souffre lui d'une maladie neurologique et dont la famille a dû quitter un autre état où c'est pas légal, c'est la Géorgie, et également ils sont également partis pour le Colorado. Il y a un autre client de cet avocat, donc c'est Marvin Washington, qui est un ancien joueur de football américain, un ancien professionnel de la ligue de football américain professionnel, qui aujourd'hui est reconverti dans les produits au cannabis sans THC, et qui milite pour que la ligue professionnelle accepte que les joueurs utilisent le cannabis thérapeutique pour se soigner plutôt que des antidouleurs. Donc voilà, lui il va plutôt militer pour ça, être représenté par un avocat pour ça. Il y a également José Belen qui est un soldat qui a servi 14 mois pendant la première guerre du Golfe, il y a une vingtaine d'années, et qui, lui, se soigne avec du cannabis thérapeutique pour soigner son stress post-traumatique. Voilà. Donc, l'objectif de cet avocat, c'est de faire reconnaître que le Controlled Substances Act est inconstitutionnel lorsqu'il s'applique au cannabis. Et il dit comme ça, si la justice nous accorde cela, ce procès pourrait avoir des conséquences sur la vie de dizaines de millions de personnes. Donc les plaignants, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un changement et que ces procès, enfin ces actions en justice mettent en marche une dynamique en fait qui serait similaire à celle qui aboutit à la légalisation du mariage homosexuel en fait. C'est comme ça. Une légalisation progressive par des États pionniers pousserait en fait le gouvernement à prendre position à l'échelle fédérale. Voilà, c'est un peu ce que l'équipe de juristes veut faire en amenant ces cas devant les tribunaux et pousser donc les autorités à mettre en cohérence en fait la loi dans tous les États de l'Union. Si j'ai bien compris.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà, donc en tout cas l'égérie de ce combat, c'est Alexis Bortel qui a 12 ans en fait. Voilà. Et moi, je pense que ça va marcher. Voilà ce que j'en pense. Allez, on s'écoute un peu de musique. Si t'es d'accord.
Ouais, tout à fait.
Ça vient.
Tout à fait.
Les musiciens sont dans le couloir, ils vont rentrer sur scène.
Je sais pas.
S'ils sont dans le couloir.
Ah, voilà, allez, c'est bon.
Ah si, ils sont arrivés. Ils sont sur scène. Allez, à tout de suite.
Toujours elle m'accompagnait, même la nuit au carré. Au carré. Et pourquoi elle m'aime tant? Non, je ne sais pas. Demande-lui peut-être qu'elle, elle te dira, elle est dans ma vie. Au carré. Je l'emmène dans les fêtes et les cinémas. Elle ne regarde personne, elle ne brûle que pour moi. Mais j'aime sa taille et sa couleur. Mais ses mèches rouges et sa douceur. Reviens un autre jour, toi le visiteur. Je ne reçois personne, je ne suis pas à la hauteur. Je reste tranquille avec ma colombienne. J'ai un faible pour elle, il faut que tu comprennes. Naturel comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, elle m'a inspiré ce poème. Elle est naturelle comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime. Ouh, 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 oui. Elle sent le soleil, elle est comme un fruit. Je remercie le ciel, la terre et la pluie pour Kali. Kali. Ouh, Kali. Elle me donne mon inspiration et m'apaise lorsque monte la tension dans ma vie. Ouh, calé. Il n'est pas question de se cacher, non. C'est une passion qui est déclarée, oui. On peut bien tenter de se mettre entre nous. Certains vont essayer mais sont devenus fous. Reviens un autre jour, monsieur l'inspecteur. Je ne reçois personne, je suis dans mes vapeurs. Je reste tranquille avec ma thaïlandaise. Dehors il fait froid, ses yeux sont de la braise. Naturel comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, elle m'a inspiré mon poème. Elle est naturelle comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, comme j'aime. Sur
un grand lit de feuilles, je rêve qu'elle se couche. Je l'ai entre mes doigts, je la porte à ma bouche. Alors je me réveille, l'embrasse et me recouche. Pas la peine de sonner à ma porte. Aujourd'hui y a pas moyen pour que je sorte. Je reste tranquille avec mon africaine. Il n'y a qu'elle qui me convienne. Qui me convienne. Naturelle comme j'aime, elle m'a inspiré mon poème. Elle est naturelle comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Oui, elle est naturelle comme j'aime, oui comme j'aime, elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle, elle est naturelle comme j'aime.
Et eh ben voilà, on vient de s'écouter Baobab, naturel. Naturel, naturel.
Naturellement bon. Allez. Alors, maintenant, on va se intéresser à nouveau, si tu es d'accord, à cette série de deux petits articles de publicsénat.fr à propos de la contraventionnalisation.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Intéressons-nous-y.
Alors, à toi, parce que j'ai déjà bien parlé.
Alors, consommation de cannabis, vers quelle réforme à minima ? C'est un peu le titre.
Vers une réforme à minima, point d'interrogation.
Voilà.
Mais oui, vers quelle réforme ? Tu as raison.
Voilà, voilà. Alors, qu'Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'une amende pour les usagers de cannabis. Une étude réalisée par le Think Tank le jour d'après évalue l'impact des différents scénarios. Problème, si elle est appliquée à minima, cette réforme n'aurait pas d'effet significatif. Donc, c'est un article d'Elena donc, Berkaoui.
C'est même une prise de position. Hein. Plus qu'un article, c'est pas. Enfin, elle s'engage en disant ça, hein, je trouve. Enfin, c'est bien, hein, c'est bien, mais.
Mais non, elle pose des questions.
Ben oui, certes, mais.
Des amendes plutôt que des peines de prison. Voilà, voilà à peu près la promesse d'Emmanuel Macron, notre cher président. Voilà donc qui nous annonce la contraventionnalisation de l'usage des stupéfiants. Voilà, bon, dans ce qu'il avait dit à l'époque, il devait aller un peu plus loin, mais bon. Voilà, en tout cas, le scénario est prévu comme ça, donc je. Voilà, je comprends pas bien. L'étude révèle en effet que le scénario à minima ne changerait pas grand-chose. Pire, il complexifierait la loi sans désengorger significativement les tribunaux. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle voulait dire, moi, par là, mais bon, voilà.
Parce que.
Voilà, non, je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, il y a une étude, il y a différentes évaluations, et a priori, les résultats de l'évaluation sont pas aussi positifs, donc il va peut-être se passer autre chose qu'une simple contraventionnalisation, c'est peut-être là qu'on peut voir du positif. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est sensible, hein, le cannabis, c'est une matière politique très sensible. Voilà, les approches diverses entre dépénaliser, légaliser ou interdire. Le procès en laxisme effraye. Donc,
et oui, si on légalise, qu'on dépénalise, laxiste.
Voilà. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est la contraventionnalisation. Alors, on parlait des trucs pas très chers. Là, l'idée, ça serait autour de 100 € actuellement.
Bah, c'est une des hypothèses.
C'est une des hypothèses, en effet.
C'est.
Voilà, donc, en langage juridique, on fait glisser l'usage de stupéfiants au rang de délit à celui de contravention. De contravention.
Bah, du rang de délit à celui de contravention, oui.
Voilà. Donc, le consommateur n'est plus considéré comme un délinquant par principe. Il est juste en infraction. C'est un citoyen en infraction. C'est bien une évolution, on peut dire. Voilà, donc actuellement. L'usage illicite de stupéfiants fait encourir une peine peine d'un an d'emprisonnement et de 3 500 € d'amende.
3 750. Voilà, actuellement c'est ça. Hein, si vous êtes pris en flagrant délit d'usage dans la rue,
vous risquez jusqu'à ça.
Voilà. Et ça, l'objectif serait de remplacer ça par une amende.
Voilà, parce qu'en fait, cette année d'emprisonnement est très 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 rarement faite, même si elle est de temps en temps faite.
1 400 personnes condamnées à de la prison ferme pour simple usage l'année dernière. Non, je crois que c'est je sais pas si l'année dernière ou en 2014. Enfin, c'est ces dernières années en fait.
Donc. Voilà, donc ou c'est de la récidive, ou alors c'est les policiers qui les ont punis, hein, parce que sinon on comprend pas beaucoup pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ensuite? Voilà, donc c'est pas très très, sans doute pas très progressif puisque c'est porté par le ministre de l'Intérieur.
Oui,
si
voilà.
Si on avait été très logique, c'était logiquement par le ministre de la Santé qu'il aurait fallu faire porter cette réforme.
Bah, c'est
à la mission interministérielle au pire, mais bon.
Bah, c'est ce que dit Romain Pérez, hein, qui est un économiste et qui est le co-rédacteur de l'étude. C'est ce qu'il constate et il dit, hein, voilà, il y a un décalage entre le discours de campagne du candidat Macron et la décision qui a été prise de confier l'application de la réforme au ministère de l'Intérieur. Et non, effectivement, à la Mildeca. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on s'oriente vers une approche répressive de la question. Voilà. Et qu'on sait aussi qu'une approche répressive, sans aller plus loin, hein, sans même se poser beaucoup, beaucoup plus de questions, hein, on sait qu'une approche répressive, elle peut effectivement intégrer, et elle intégrera la possibilité de mettre des PV aux usagers, sans oublier le côté répression des usagers qui ne seraient pas des primos usagers. Et on nous parle aussi d'enquête, de remontée des filières de trafic, etc.
Voilà, parce qu'en fait, dans ce système de peine comme ça, de 100 € automatique, ils n'auraient plus de pression vraiment sur les usagers qu'ils attraperaient, et donc ils n'arriveraient plus à remonter à faire du travail d'enquêteur. Ce qu'ils font quand même, en plus, très 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 rarement. Donc.
Voilà, tout à fait. On sait que c'est pas... Enfin, ça s'observe depuis de nombreuses décennies maintenant. On voit bien, statistiquement, que le travail de fond des enquêteurs pour trouver des réseaux de trafic, etc., et les condamnations, c'est hyper minime par rapport aux interpellations et aux condamnations des usagers. Ça n'a rien à voir, c'est du simple au 10 fois 20, enfin je sais pas, mais... Donc bon, à l'heure actuelle, aujourd'hui, comme c'est avant même le vote de la loi sur les contraventions, on sait déjà que la police... visiblement, en arrêtant des consommateurs, ne fait pas systématiquement de recherche des réseaux de trafiquants, quoi. Donc bon, avec ça, je vois pas ce que ça va changer.
Alors par contre, il y a plusieurs scénarios. Donc là, on vient de parler de la contravention à 100 €. Mais il y en a un autre qui s'appellerait plutôt la forfaitisation délictuelle.
Oui, alors on en a parlé déjà la semaine dernière. Oui.
Ah, donc c'est un peu plus conservatrice comme façon de mettre les choses en place. Dans l'échelle des peines, ça se situe entre le délit et la contravention. Donc en fait, ça serait un truc pour faciliter le travail d'interpellation des forces de l'ordre, notamment justement avec ce volet donc de faire pression sur l'usager pour faire tomber les réseaux.
Mais alors du coup là, on n'est plus dans un système de contravention sans papier simple.
Voilà, tout à fait. Et donc du coup, ça complexifie encore un peu plus le système, qui est déjà pas si simple. Donc voilà, c'est pas tout à fait ça, quoi. On est... Et donc la forfaitisation délictuelle n'apporterait pas d'avantage significatif en matière budgétaire, voilà. Le coût des interpellations baisserait un peu, mais pas autant qu'on pourrait le... Pas autant que la contraventionnalisation, elle serait beaucoup plus rentable. Et il y aurait encore des passages dans les tribunaux, donc ça coûterait encore un peu d'argent. Donc voilà, pour les rédacteurs, hein, eux, ils étaient plutôt pour la contraventionnalisation, qui est...
simple, si j'ose dire.
Oui, qui est beaucoup plus simple à mettre en place.
Ouais, parce que alors, du coup sur la partie forfaitisation là dont on parlait juste là, l'économiste en question dit que si on adopte cette forfaitisation, bah on reste quand même dans une optique de lutte contre la délinquance, parce que ça reste quand même un délit, mais au final les économies à réaliser sont extrêmement minimes en fait. Puisque même si on fait 226 millions d'euros d'économies, hein, l'évaluation des économies réalisées si on est dans ce cadre de forfaitisation délictuelle, la dépense liée à la répression contre le cannabis, les drogues, etc., c'est en tout 644 millions d'euros pour l'année 2017. Là. Donc si on fait 226 millions d'euros, bon, ben voilà, ça va faire quelques économies, mais ça va quand même pas en faire beaucoup, et il va quand même avoir beaucoup d'argent dépensé, pour rien, quoi.
D'où l'intérêt de la contraventionnalisation, parce que là, ça ferait 380 millions d'économies. Donc c'est un petit peu mieux pour les finances de l'État.
De quoi qui ferait 380 millions ? Si on passe
à une contraventionnalisation.
De simple, 200 euros, là, comme on disait avant.
Oui.
D'accord. Donc il y aurait plus d'économies si on passe à un PV simple, en fait, sans paperasse, sans rien.
Tout à fait.
Plutôt qu'à cette forfaitisation délictuelle.
Voilà, parce qu'avec le système de contraventionnalisation pour le primo délinquant et de remettre le en deuxième, là, ça devient compliqué. Et donc du coup, on va glisser très rapidement vers une simple. La suppression pure et simple du délit d'usage et juste la contraventionnalisation de l'usage.
Voilà, donc c'est l'approche qui est plébiscitée en fait par les rédacteurs de l'étude, hein, si je te suis bien.
Oui, bah c'est là-dessus que elle dit qu'on se dirigerait. Hein.
Ah oui, voilà, donc c'est effectivement, je retrouve le chiffre là, effectivement, c'est là qu'on ferait plus 380 millions d'euros d'économies au lieu de 226. Voilà. Ceci dit, ça fait encore beaucoup d'argent dépensé pour la répression, en fait. Donc bon.
Voilà. Et par contre, on remettrait un délit de détention pour permettre l'interpellation des vendeurs de stupéfiants. Donc un délit de détention au-delà d'un certain seuil qui ne correspondrait plus à celui de l'achat. Donc voilà, ça doit être au-dessus de 10 grammes ou aussi de, voilà, ou je sais pas quoi.
Bon, en fait, c'est pas si simple, hein, à comprendre déjà, et je suis pas sûr que ce soit super simple.
Il devrait légaliser, ah bah, on va la tête pour de bonnes
oui,
raisons.
C'est sûr, ouais. Exactement, ouais. Mais là, je pense que voilà, c'est pas si simple, et je suis pas certain que les forces de l'ordre.
Parce que légaliser, c'est pas si simple.
Non plus, ah, mais non, on dit pas que c'est simple, mais comme tu dis, on se prendrait la tête à bon escient, au moins, quoi.
Ouais, toi, t'es pour une légalisation. Ouais, ils sont là pour une légalisation. Allez, pas de règles, rien, on légalise et puis on s'en fout, ça roule.
Ouais, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas de règles, c'est pas une légalisation non plus. Et que si on. Enfin. Bah, si on veut, mais. Enfin, ouais. Alors, mais
est-ce qu'il y a une légalisation sur les haricots verts, quoi?
Ben, il y a une réglementation.
Forcément.
Voilà.
Bon, bah, il faudra faire une réglementation.
Voilà, bah, en fait, oui, c'est. Je m'avance un peu, mais l'article suisse, hein, qu'il y a derrière. Un peu après, on parle plus de réglementation qu'est de légalisation. Enfin, en tout cas, légaliser, ça veut dire passer d'un régime d'interdiction à un régime d'autorisation, encadré. Voilà, c'est ça que ça veut dire, en fait.
Voilà, bon, bah, en tout cas, on attend on attend de voir ce qui va se passer sur ce sujet. Ça va venir, ouais, en 2018, donc là, c'est les premiers articles. Hein. On attend justement... le rapport des experts.
Oui.
Et on verra ça. Donc en 2018, on va voir là-dessus, quoi.
Bah, s'ils décident vraiment de travailler sur le sujet, hein, ce qui n'est pas gagné non plus. Hein.
Voilà. Et puis j'ai appris quand même une petite chose quand même en fin d'article. Il faut noter qu'en 2015, une transaction pénale avait été mise en place,
bah oui,
sans engendrer de changement notable.
À l'initiative de Taubira, avant qu'elle parte. Du gouvernement.
Voilà, donc cette mesure permettait aux policiers de faire payer une amende pour des délits mineurs, comme l'usage de cannabis. Entre janvier et mai 2016, seules 13 transactions avaient été réalisées. En cause, une procédure trop lourde, le Conseil d'État a finalement retoqué la transaction pénale au motif qu'elle était contraire au droit de justiciable à un procès équitable.
Oui, alors ça aussi, ça mériterait qu'on s'y attarde un moment. C'est quand même fou, quoi. Enfin, je veux dire, on veut faciliter les procédures et tout. Enfin, en tout cas, le gouvernement voulait le faire. Finalement, le Conseil d'État dit non. En fait, mettre une amende, c'est pas équitable. Parce que chaque justiciable a le droit à un procès, en fait. Sauf que la mise en place d'amende, c'est pour éviter qu'il y ait des procès, notamment pour le primo-usage. Donc bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Alors, article suivant, toujours sur publicsénat.fr. Alors là, voilà, Simon Barbary, parce que c'est le nom du journaliste qui rédige l'article. Alors lui, il s'emballe un peu, hein, parce que le titre de l'article, c'est « Contravention pour usage de cannabis, un premier pas vers la légalisation contrôlée, point d'interrogation ». Alors là, un qui est super optimiste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas tout compris à la musique, quoi.
Allons plus loin. Les contraventions pour réprimer les consommateurs de cannabis seront mises en place dans les 3 ou 4 mois prochains mois, a annoncé Gérard Collomb. Pour Daniel Vaillant, et c'est là que le journaliste prend son idée, c'est insuffisant, mais au moins on ouvre la porte au débat.
Tout à fait.
Et donc on est en marche, on a fait le premier pas. L'objectif étant la légalisation, ça arrivera au second.
Ma foi, bah écoute, oui, je suis pas très convaincu, mais bon. Oui. Pourquoi pas? J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim avec cette proposition-là, mais bon.
Moi je reste plus sur les nerfs, mais bon.
Oui, aussi, ouais. Alors, moi j'aime bien, c'est quand même Virginie Duval, qui est la présidente de l'Union syndicale des magistrats. Visiblement, quand on lui pose la question, cette procédure là de contraventionnalisation qui devrait désengorger les tribunaux, elle dit bah non, pas du tout. Voilà. Donc elle reparle de des alternatives à la condamnation, elle reparle de la transaction pénale qui est déjà possible depuis ce décret du Premier ministre depuis 2015 là. Et elle dit comme ça, la contraventionnalisation c'est du usage du cannabis, c'est surtout un choix politique. Par exemple, elle dit, hein, on ne sait pas si la contravention sera accompagnée d'une injonction thérapeutique. Voilà. En effet, on n'en sait rien. On n'en parle pas de ça, on parle de PV et tout, on parle pas de lutte contre les addictions, on parle pas des usagers qui pourraient éventuellement bénéficier de soins. Tout ça, c'est absolument pas abordé lorsqu'on parle de cette histoire de contraventionnalisation. Et même un peu plus loin, c'est Esther Benbassa qui dit comme ça, on ne s'occupe pas de la prévention, de la consommation des mineurs, du taux de THC, elle rajoute, ça ne va pas régler non plus le problème de la délinquance liée à la mafia. Bah non, à partir du moment où on veut pas s'attaquer à la légalisation, bah c'est le statu quo, on a beau mettre des PV aux usagers, ça empêchera pas un certain nombre de personnes de faire du business avec ça. Voilà.
Voilà, le troisième donc c'est Daniel Vaillant, vous savez cet ancien ministre de l'Intérieur qui une fois qu'il est parti de son poste a dit qu'il fallait légaliser.
Voilà, alors qu'il s'est battu de toutes ses forces pour poursuivre les usagers juste avant. Hein.
Mais c'est déjà un bon pas, ouais. Et donc lui aussi il voit, et c'est pour ça que l'article commence comme ça, un élément positif mais insuffisant. Il salue l'annonce, on sort du statu quo, c'est déjà bien. On avance, et donc quand on avance, et ben c'est qu'on ne recule pas. Voilà. Maintenant, il va falloir débrouiller et voilà. Faire tomber un certain nombre de tabous avant qu'un projet de réforme arrive au Parlement.
Voilà.
Il faut organiser un grand débat avec tous les acteurs concernés qui prendraient en compte à la fois les questions de santé publique et de lutte contre les trafics. Une fois le rapport remis au gouvernement, on pourra alors légiférer. Voilà la proposition de Vaillant.
Tout à fait. Voilà, le dernier paragraphe ne m'a pas paru particulièrement intéressant.
Donc non, bon. C'était juste pour rappeler voilà, que Macron en parlait vaguement dans Révolution. Voilà, bref.
donc, Donc voilà, on continue à suivre cet épisode hein, de contraventionnalisation et d'une proposition de loi qui se tienne à ce sujet. Et pour l'instant, il n'y a pas de proposition de loi de contravention. Mais ça ne devrait pas tarder. Bon, on va voir ça. Donc pour finir, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la Suisse, ni même de l'histoire du cannabis médical, mais je pense que je remettrai l'article la semaine prochaine pour la revue de presse de la semaine prochaine. Donc si tu es d'accord, on va parler de ce dernier article de Soft Secret.
Tout à fait.
Qui est rédigé par Olivier.
Anti-prohibitionnisme, ils veulent légaliser la weed pour de mauvaises raisons. Voilà, donc.
Alors, la mauvaise raison, hein, tout de suite, je veux dire, c'est pour enflouer les caisses de l'État, hein, si j'ai bien compris. Hein.
Non, c'est pas ça. Donc,
j'ai mal compris.
Emmanuelle Auriol, donc, elle, c'était une économiste toulousaine, auteure du livre Pour en finir avec les mafias. Et donc, en France, pour elle, le cannabis n'est pas assez cher. Voilà, j'arrive pas à comprendre vraiment sa logique, mais pour en tout cas Olivier, l'auteur de cet article, elle se trompe totalement. Déjà en France, le cannabis est bien assez cher, voire trop cher, surtout quand c'est du cannabis local, ou de la weed locale. Ensuite, il parle du Sing Song Terra Nova, club de réflexion. Donc, qui eux aussi ont fait deux rapports qui préconisaient la légalisation du cannabis, écrit principalement pour des économistes. Et donc là, c'est eux qui voient que les choses de façon économique, comme tu le disais très bien. Le premier rapport de Terra Nova disait « Cannabis, réguler le marché pour sortir de l'impasse ». C'était un mauvais tour pour les consommateurs de cannabis. Pour en finir avec le marché noir, ils préconisaient de commencer par vendre le cannabis à 6 euros le gramme pour attirer les usagers vers les boutiques officielles, et ensuite l'augmenter progressivement pour atteindre 80% de taxes comme pour le tabac, une fois que le marché noir aura disparu. Donc l'augmenter à long terme, donc ça rejoint un peu l'idée d'Emmanuel Auriol. Et le deuxième rapport de Terra Nova, publié l'année dernière, a été assez étrange. Le rapport se basait sur les jeux, sur l'autorité de régulation des jeux en ligne, et c'est ce source modèle qui voulait légaliser. Donc c'est l'État qui s'occuperait de la vente, et donc ça serait pour renflouer les caisses de l'État. Et c'est là-dessus que tu as un peu raison.
Ah oui, j'avais lu l'article.
Voilà. Alors, en fait, le troisième, il y en a d'autres hein, qui veulent légaliser pour n'importe quelle raison. Hein.
Bah non, pas pour n'importe quelle raison.
C'est Maître Francis Caballero, en tout cas, qui est dans le viseur aussi d'Olivier.
Oui, parce que lui, Caballero, il plaide pour un monopole d'État, et qu'un monopole d'État, selon lui, ne doit avoir aucune concurrence. Donc lui, il est contre l'autoproduction.
Voilà, il était pour le mouvement pour la légalisation contrôlée, le MLC, depuis un moment. Et il avait un livre Legalize It.
Legalize It, ouais, qui est sorti il y a 4-5 ans, ouais, 4 ans. Ouais.
Voilà, donc, et il veut par contre interdire totalement l'autoproduction. C'est là-dessus qu'Olivier s'insurge.
Il a raison.
Et il explique qu'actuellement il y a 200 000 cannabiculteurs en France, et l'avocat propose de réduire ce nombre à 2 000 pour en faire des cultivateurs de cannabis autorisés par l'État, et les autres, évidemment, tant pis pour eux. Voilà, ils finissent, c'est, dans tous les cas, c'est une manne financière providentielle. Parce qu'en cas de légalisation, l'État pourrait économiser de l'argent. En cas de dépénalisation, l'État pourrait économiser de l'argent mécaniquement sans avoir besoin de rajouter des taxes spécifiques. Et en temps de légalisation, et forcément, ça serait encore mieux.
Alors, juste ce que je voulais rajouter, c'est que si on en est là avec ces propositions, c'est parce que les utilisateurs ne sont jamais consultés, ne sont pas entendus, ne sont pas pris au sérieux, ne sont même pas pris en compte du tout, en fait. J'ai presque envie de dire que les seuls qui nous ont un peu écoutés, même si c'était pas forcément pour faire ce que l'on souhaiterait, C'est la commission parlementaire qui a été mise en place au mois de septembre, qui voulait consulter les associations pour voilà comment est-ce qu'on peut au mieux verbaliser les consommateurs. Ils nous ont quand même laissé la parole et on a quand même pu s'exprimer, même si voilà. ils vont pas tenir compte de ce qu'on leur a dit. Mais sinon, les usagers, les utilisateurs, les amateurs ne sont jamais consultés en fait.
Tout à fait. Bah, c'est ce que disait Olivier
à la fin
des think tanks, c'était que des économistes et il y avait pas d'utilisateurs.
Les experts, ouais.
C'était bien dans sûr. Les choses qui râlaient. Et alors, là justement, en revenant aux utilisateurs, les fumeurs de joint. Eh bien, si c'est légal, au moins, et s'il y a des taxes, au moins, ils pourraient participer à l'effort national pour combler les déficits et rembourser les dettes de l'État. Hein ? En France, le cannabis sera peut-être légalisé dans quelques années, mais le combat ne fera alors que commencer. Pour éviter que la légalisation ne profite qu'à l'État et aux grandes entreprises,
c'est ça le problème.
Il est primordial d'organiser la défense des consommateurs et des autoproducteurs de cannabis. Voilà.
Voilà. Et je pense à
lui. Maintenant et tout de suite. Juste alors rejoignez le cirque, c'est urgent.
Oui, mais tu une seconde. Juste pour finir là-dessus, l'Uruguay qui a mis en place un monopole d'État.
Uruguay.
A quand même donné la possibilité aux usagers de se fédérer et de monter des associations d'autoproducteurs avec la mise en place de Cannabis Social Club. Donc voilà, l'Uruguay c'est pas mal quand même. Et en plus il laisse quand même les cultivateurs s'organiser aussi et se regrouper en association. Voilà. Et là, c'est absolument, c'est complètement absent des débats et des propositions faites par les économistes, caballeros, etc. Donc c'est regrettable. Et donc ça veut dire que même si c'est un jour c'est légalisé en France, on a à craindre quand même de la forme que prendra cette légalisation. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire?
Surtout que, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier, toutes les grandes firmes fameuses, tous les grands
les semenciers, ou les grosses boîtes d'agro-industrie.
Les Marlboro et tout ça, là. Tu vois ça, là.
Le lobby du tabac, oui.
Oui,
les industriels du tabac.
Voilà, ils sont prêts à sortir des cannabis.
Oui, ils sont prêts, mais il n'y a pas que.
Les cigarettes toutes manufacturées avec du cannabis, avec toujours toutes les saloperies possibles à l'intérieur.
Ouais, et ça, c'est un problème.
Qui sont très mauvaises. Sans parler de quoi d'autre, de tous les produits qu'ils rajoutent, bref.
Bon, voilà.
L'ammoniaque pour que ça aille plus vite au cerveau, hein, voilà. Bref.
Voilà, donc c'est sur cette bonne nouvelle que se termine Cannabis Circus aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle quand même notre numéro de téléphone Cirque Lyon, que vous pouvez joindre au 06 11 53 10 07 par mail cirque-lyon@no-log.org, par voie postale aussi Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne Cedex. Tu voulais dire quoi?
Que c'est quand même important de savoir et de dire que les tabacoliers, là, quoi, les fabricants de tabac,
oui,
ils mettent des produits dedans pour que elle arrive encore plus vite au cerveau,
ouais,
pour qu'il y ait un meilleur effet et pour que ça accroche plus.
Ah oui.
C'est quand même des dealers remarquables, quoi. C'est scandaleux.
Ouais, bon, l'émission est finie. T'avais qu'à le dire avant que je donne les coordonnées du cirque. T'es pénible. Hein. Maintenant, c'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine. Au revoir.